Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 universelle du lundi 28 octobre 2019. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. Au moins 15 personnes ont été tuées dans le nord du Burkina Faso dans une attaque attribuée aux groupes armés. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir minimise la candidature de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. L'Arabie Saoudite se félicite de la mort du chef du groupe État islamique dans une opération militaire américaine. En Afrique, la mort d'Al-Baghdadi peut impacter la lutte contre le terrorisme.
Tous ces combattants-là, effectivement, ne sont pas morts. C'est pour cela qu'il y a résurgence des franchises de l'État islamique au niveau de toute l'Afrique.
Les 27 pays de l'Union européenne sont d'accord pour un troisième report du Brexit au 31 janvier. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal. Au Burkina Faso, au moins 15 civils ont été tués par des groupes armés entre samedi et dimanche à Pobé Mengao, dans la province du Soum. C'est dans le nord du Burkina. Les habitants ont fui vers Djibo, chef-lieu de la province, Clermont-Ingebourg.
Une source militaire a confirmé que les corps de 11 personnes ont été retrouvés hier matin sur l'axe Pobé-Mengao-Petelbongo. Il s'agit probablement des corps des personnes enlevées la veille à Pobé-Mengao par des groupes armés non identifiés. Samedi soir, de nombreux individus armés ont attaqué ce village, pillé des boutiques et enlevé plusieurs habitants. Après le départ des assaillants, les populations ont fui le village pour se réfugier à Djibo. Les assaillants sont revenus dimanche dans le village de Pobé Mengao, où ils ont tiré des coups de feu en l'air pendant plusieurs heures. 4 autres corps ont été encore retrouvés après ce deuxième passage, portant à une quinzaine le nombre de personnes tuées, a précisé une source locale à Djibo. L'armée burkinabé a envoyé des renforts sur place dès dimanche soir et des patrouilles sont effectuées dans la zone.
Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire a qualifié de non-événement la candidature de Guillaume Soro à l'élection présidentielle de 2020. L'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre, Ekiabadou.
Ancien allié du président Alassane Ouattara, passé dans l'opposition, Guillaume Soro, 47 ans, a annoncé sa candidature le 18 octobre. C'est un non-événement, a déclaré Adama Big Togo, directeur exécutif du RHDP, au parti au pouvoir, lors d'une conférence de presse. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais premier ministre. Soro annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. Quand on respecte son peuple et son pays, on vient dans son pays, on annonce sa candidature dans son pays, a martelé M. Big Togo. Interrogé sur une éventuelle candidature du président Ouattara, M. Big Togo a répondu « Les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo peuvent être candidats et cela ne vous choque pas. Et quand on parle de la candidature de Ouattara, cela vous choque. » Pour le moment, M. Ouattara n'a rien dit concernant ses intentions.
En RDC, la justice militaire a requis la prison à perpétuité contre un chef rebelle poursuivi pour des viols de masse en 2018 dans l'est du pays. Selon le procureur, les milices de Frédéric Massoudi Alimassi, alias Coco Di Coco, ont perpétré des exactions contre plus de 300 victimes, dont des enfants et des femmes, dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu. Amnesty International et Human Rights Watch estiment que les libertés fondamentales ont nettement reculé en Tanzanie depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, les assauts répétés du pouvoir contre la liberté d'expression sont inédits dans ce pays qui a longtemps bénéficié d'une image de stabilité et de tolérance. Le mandat du président Magufuli entre dans sa 5e année au début du mois de novembre et pour Roland Ebole, chercheur à Amnesty International, la Tanzanie est en train de s'enfoncer à grande vitesse. L'Afrique du Sud, frappée par la sécheresse, a imposé des mesures d'urgence, dont le rationnement pour économiser l'eau. Les niveaux des barrages à travers le pays ont chuté de 10 à 60% par rapport à 2018, selon les autorités. Le Sud-Africain utilise en moyenne 320 litres par jour, soit le double de la moyenne mondiale, selon le gouvernement. En Algérie, l'ensemble des tribunaux était toujours à l'arrêt ce lundi, selon des syndicats, au deuxième jour d'une grève illimitée des magistrats. Ils réclament l'indépendance de la justice et l'annulation d'un changement d'affectation qui vise la moitié d'entre eux. Une cellule terroriste affiliée au groupe État islamique démantelée vendredi au Maroc comptait attaquer des sites sensibles en mer et sur le littoral de Casablanca. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la police marocaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite s'est félicitée de la mort dans une opération américaine du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. La Turquie a affirmé de son côté que ses services de renseignement ont collaboré avec leurs homologues américains pendant l'opération. Yacouba Ouedraogo.
Riyad a salué la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, dont l'organisation a défiguré l'image de l'islam et des musulmans à travers le monde, d'après le porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères. Il a assuré que l'Arabie saoudite continuera avec ses alliés et à leur tête les États-Unis à combattre le terrorisme. De son côté, la Turquie a affirmé que ses services de renseignement et ses militaires ont eu des contacts intenses avec leurs homologues américains pendant l'opération. Ankara dit poursuivre sa lutte contre l'idéologie dévoyée du groupe djihadiste. Le président américain a annoncé hier la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi lors d'un raid dans le nord-ouest de la Syrie. Il a entre autres remercié les forces kurdes, ce que dénonce la Turquie, qui les considère comme des terroristes. Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait publier des extraits de la vidéo du raid contre Baghdadi, qui a fait sauter sa ceinture d'explosifs après avoir été acculé par les forces américaines.
L'armée irakienne a décrété ce lundi un couvre-feu de minuit à 6 heures du matin à Bagdad, où des milliers de manifestants occupent depuis jeudi la place Tahrir pour réclamer la chute du régime. Ce couvre-feu est instauré jusqu'à nouvel ordre, précise l'armée dans un communiqué, alors que depuis dimanche, étudiants et écoliers sont venus grossir les rangs de la contestation lancée le 1er octobre. Plus de 200 personnes ont été tuées lors de ces manifestations. Au Liban, les manifestants ont renforcé ce lundi leur barrage routier au lendemain d'une démonstration d'unité sans précédent. Lundi, dès l'aube, les barrages bloquant l'autoroute à l'entrée de Beyrouth ont été renforcés par des dizaines de voitures mises au travers des voies, s'ajoutant aux barricades installées depuis plus de 10 jours. Les manifestations ont commencé le 17 octobre après l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels via WhatsApp. La rapide annulation de la mesure n'a pas empêché la révolte de gagner l'ensemble du pays. Le chercheur français Roland Marshall, détenu en Iran depuis 4 mois, est accusé de collusion en vue de nuire à la sécurité de l'État iranien, ce qu'a indiqué ce lundi son avocat. Roland Marshall et sa collègue, l'anthropologue franco-iranienne Fariba Abdelkha, tous deux chercheurs au Centre de recherche international de Paris, ont été arrêtés en juin dernier en Iran. À 3 jours de la date prévue du Brexit, les 27 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert pour un troisième report jusqu'au 31 janvier. À Londres, le Premier ministre Boris Johnson tente de déclencher des législatives anticipées. Le point avec Nathalie Barge.
Ce report prévoit une date butoir au 31 janvier, mais avec la possibilité pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne au 30 novembre ou au 31 décembre en cas de ratification de l'accord de sortie avant ces échéances. La décision s'accompagne d'une déclaration politique dans laquelle Bruxelles exclut toute renégociation de l'accord conclu avec Boris Johnson et demande à Londres de proposer un candidat britannique comme commissaire européen. Les conditions du report doivent être acceptées par Londres. Si les députés britanniques ont approuvé en principe le nouvel accord, ils ont rejeté le calendrier que Boris Johnson voulait leur imposer. Pour obtenir des législatives anticipées qui se tiendraient le 12 décembre, M. Johnson aura besoin des 2/3 des voix à la Chambre des communes, soit 434 votes. Le Premier ministre conservateur, qui n'a plus de majorité, a déjà échoué à 2 reprises au mois de septembre.
La justice britannique a décidé de maintenir en détention le chauffeur du camion frigorifique où ont été retrouvés 39 corps près de Londres la semaine dernière. Arrêté peu après la découverte du camion, le chauffeur Maurice Robinson a comparu ce lundi par visioconférence. Il est poursuivi pour homicide involontaire, trafic d'êtres humains, aide à l'immigration illégale et blanchiment d'argent. De leur côté, les autorités vietnamiennes ont procédé à des prélèvements d'échantillons pour réaliser des tests ADN et déterminer si des ressortissants de leur pays faisaient partie, comme le craignent leurs familles. Et puis en Arabie Saoudite, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations qui ont fait 7 morts et 11 blessés dans le nord-est de ce pays largement désertique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
Au Sénégal, le parc éolien de Taïbandiaï dans la région de Thiès sera connecté au réseau électrique de la Compagnie nationale d'électricité dans la deuxième semaine de décembre. Les 16 éoliennes connectées auront une puissance de 50 MW. À terme, en mi-2020, le parc sera constitué de 46 turbines avec une puissance de 158 MW. Les développeurs affirment avoir déjà érigé la moitié des turbines. À son achèvement, la centrale de Taïbandiaï alimentera 150 000 ménages. Elle augmentera de 15% la part du renouvelable dans le mix énergétique sénégalais. La société internationale Tunisie Leasing et Factoring compte développer son activité de crédit bail grâce à un prêt de 12 millions d'euros de Proparco, une institution française dédiée au financement du secteur privé. Ces fonds serviront à soutenir des PME locales qui représentent plus de la moitié des emplois en Tunisie. Ce prêt s'inscrit dans le cadre de l'initiative Choose Africa qui vise à soutenir près de 10 000 petites entreprises africaines d'ici 2022 grâce à un apport financier du gouvernement français. Pour terminer, l'Afrique du Sud autorise de nouveau la compagnie aérienne nationale zimbabwéenne à desservir Johannesburg après lui avoir interdit la semaine dernière d'utiliser les aéroports sud-africains en raison de redevances non payées. Vendredi, Air Zimbabwe a réglé sa dette.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Cyclisme avec le Tour du Faso, la quatrième étape a été enlevée par un Allemand.
Oui, Anton Benedict a avalé les 101 km 800 entre Bitou et Kupela, sans conséquence sur le porteur du maillot jaune qui reste sur les épaules du Rwandais Moïse Mugisha. On fait le point avec notre correspondant Kader Traoré sur la route du Tour.
La victoire de la quatrième étape courue ce lundi entre Bitou et Kupela, distance de 101,8 km, a été remportée par l'Allemand Benedict Anton. Il est suivi de deux Belges, Timmy Debouze et Peter Bouils. David Kramer est de la team Ambrose Reward et équipier du vainqueur du jour.
C'était une étape avec le vent dans le dos. On restait très calme au début en observant les développements dans le peloton. Juan a travaillé très bien. Nous avons su que l'étape va finir dans une sprint et le sprinteur Anton Benedict a gagné. Il avait des jambes les plus fortes aujourd'hui, je crois.
Le maillot jaune est toujours la propriété du Rwandais Moïse Mugisha. Il a 37 secondes de mieux au classement général que l'Angolais Dario Manuel Antonio. Demain, c'est la cinquième étape entre Boussé et Waiguia, longue de 135,5 km. Kader Traoré sur la route du Tour du Faso pour VOA Afrique.
Football, belle entame pour les Africains au mondial des moins de 17 ans.
En ouverture ce week-end, le Nigeria s'est débarrassé de la Hongrie 4-2 dans la poule B. Dans le groupe A, l'Angola a battu la Nouvelle-Zélande 2-1. Et puis hier, dans le groupe D, le Sénégal a renversé largement les États-Unis 4-1. Le Cameroun, dernier pays africain en lice, fera ses débuts ce soir à 20h temps universel face au Tadjikistan dans le groupe E.
Les matchs allés du tour de cadrage en Coupe CAF se sont joués ce week-end.
Le succès le plus large est à mettre au crédit des Guinéens de Oroya 4-2 face au Kenyan de Badari, avec un triplé de l'attaquant burkinabé Aristide Bansé. Bonne opération aussi pour les Zambiens de Zanaco à Malabo contre Kano Sport 3-1, des Maliens de Djoliba au Tchad contre Elect Sport 1-0, et puis succès 2-1 de l'ASK, le champion du Togo face au Nigérian Denungu Rangers. Les Malgaches de Fossa Junior ont dominé la Renaissance Berkane 2-0, même score pour le club nigérien de Nimba contre les Sud-Africains du TS Galaxy. Les Égyptiens d'Al Masri ont pris une grosse option pour la qualification en allant gagner au Seychelles contre Côte d'Or 4-0. La rencontre entre les Sénégalais de Génération Foot et les Béninois d'Essaïe aura lieu ce mercredi.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La mort du chef du groupe État islamique, annoncée hier par le président Donald Trump, est considérée comme un coup dur pour l'organisation qui avait déjà perdu la quasi-totalité du territoire conquis en 2014. Mais beaucoup estiment que le groupe a toujours une capacité de nuisance. Beaucoup de jeunes Africains étaient partis se battre pour le groupe djihadiste en Irak, en Syrie et en Libye. Que sont devenus tous ces Africains anciens combattants de Daesh? Idriss Fall a joint Isselmo Ould Mustafa, directeur de Talahil Hebdo à Nouakchott.
Ces Africains, aussi des combattants de l'État islamique d'autres nationalités, se sont éparpillés après la défaite militaire de l'État islamique en Syrie. Ils se sont éparpillés. Il y en a qui restent là-bas, qui constituent des poches de résistance en Irak et en Syrie. Mais il y en a qui ont déferlé un peu partout dans leur pays d'origine. Il y en a qui sont revenus au Sahel, par exemple. Il y en a qui sont en Libye. Et il y en a qui sont descendus carrément en Afrique de l'Ouest. On soupçonne que les Nigériens en a réussi, ou que le Boko Haram plutôt en a réussi. Tous ces combattants-là, effectivement, ne sont pas morts. C'est pour cela qu'il y a résurgence des franchises de l'État islamique au niveau de toute l'Afrique, à partir du Sinaï jusqu'au Nigeria, jusqu'au Niger, un peu partout.
Et le plus actif pour le moment, c'est le groupe État islamique pour le Grand Sahara, avec Abu al-Sahrawi, qui est très actif apparemment dans l'Ouest du Mali.
Oui, celui-là, son groupe, le groupe État islamique dans le Grand Sahara, fait partie des grands groupes sahéliens. Il est beaucoup moins important, en tout cas, que la province de l'Afrique de l'Ouest, de l'État islamique, qui est la phalange principale du Boko Haram. Il y a aussi un groupe qui a prêté allégeance à l'État islamique en 2017, le groupe Ansar al-Islam du Burkina, qui était dirigé par Jafar Diko, dont on a annoncé la mort il y a quelques jours, mais qui aurait été remplacé par son frère Mansour. Donc il y a ces trois groupes-là qui ont prêté allégeance à l'État islamique, qui sont très actifs en Afrique de l'Ouest. Le plus important est incontestablement la phalange principale du Boko Haram, et vient en second lieu le groupe de l'État islamique dirigé par Adnan, qui est responsable de la mort de 4 soldats américains en octobre 2017.
On a entendu aussi récemment, même dans le nord-est de la République démocratique du Congo, ils ont revendiqué des attaques.
Absolument, effectivement. Il y a eu la naissance de... C'est un peu curieux, on en a entendu même parler au Mozambique, figurez-vous. Donc effectivement, il y a des groupes qui naissent un peu partout en Afrique centrale et qui naissent même, comme je vous l'ai dit, au Mozambique, qui est d'ailleurs un peu très loin, en principe, de la zone d'influence de l'État islamique.
Est-ce que les États africains ont les moyens de lutter contre ces groupes?
Moi, je pense que les États africains font de leur mieux. Au niveau du G5 Sahel, ils font de leur mieux. Mais la menace, vous savez, c'est une guerre asymétrique, c'est très dur pour les armées conventionnelles. Figurez-vous quand même, l'armée américaine et la coalition internationale qui ont pris naissance en 2014 en Syrie et en Irak, n'ont vaincu militairement l'État islamique au bout de 4 années, 5 années. Donc moi je pense que les expériences qui existent maintenant au Sahel sont des expériences qui sont en train d'évoluer. Les groupes terroristes ne contrôlent plus des territoires propres à eux. Ils sont sur la défensive, c'est vrai, il y a la résurgence, il y a la résistance, il y a même la résilience. Mais c'est beaucoup plus dû à des facteurs internes, des tensions intercommunautaires, des problèmes de gouvernance et un ensemble d'autres considérations.
C'était Isselmo Ould Mustafa, directeur de Tahalil Hebdo à Nouakchott.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous revenons sur la mort annoncée du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Est-ce la fin de ce groupe alors qu'il y avait beaucoup d'Africains dans son califat autoproclamé? Le groupe État islamique dans le Grand Sahara est très actif dans l'ouest du Mali. Les États africains se donnent-ils les moyens de lutter contre de tels groupes? Que faire pour arrêter l'enrôlement des jeunes? Comment éradiquer le terrorisme? À votre avis, c'est ce soir à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Venez en discuter en appelant le 001 202 205 26 33. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
Au Cameroun, le premier forum culturel sur les risques liés à la migration clandestine s'est achevé ce week-end à Yaoundé. L'objectif était de sensibiliser les jeunes sur les dangers de la migration irrégulière, les aspects positifs de l'immigration régulière et de montrer aussi les opportunités d'insertion socio-professionnelle existantes au Cameroun. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jultap.
De nombreux élèves, étudiants et jeunes en quête d'opportunités d'emploi ou de formation à l'étranger ont été sensibilisés au cours du forum sur la migration. Les anciens migrants notamment leur ont parlé des dangers de la migration irrégulière. Rostan Biloa, élève en classe de seconde dans un lycée de Yaoundé, a pris part au forum.
Si elle est illégale, nous avons juste un prix à payer, la mort. Et pourtant, si nous allons légalement, nous pouvons prouver tellement d'avantages.
L'option d'émigrer régulièrement a également fait l'objet d'échange pendant les deux jours du forum. La branche locale de l'ONG AISEC a présenté aux jeunes les opportunités de migration régulière. Isaac Yami est chargé des talents au sein de l'ONG AISEC à Yaoundé.
On a trois programmes. Le premier programme, c'est le programme de Global Entrepreneur. Ça veut dire qu'un étudiant qui est au Cameroun peut aller dans un autre pays pour développer son leadership au travers d'un centre académique. Le deuxième programme que je vais proposer, c'était le programme de Global Volontaire, où je vais dans un pays aussi pour faire du volontariat à travers les ONG. Enfin, le troisième projet, c'est Global Talent. Là, il s'agit de me vendre à l'international. J'ai déjà des capacités à travailler. Alors, je signe un contrat avec une entreprise à l'étranger et puis je passe travailler là-bas pour un contrat à durée déterminée.
Toutefois, au cours du forum, les organisateurs ont mis un accent sur les secteurs pouvant permettre aux jeunes de gagner leur vie au Cameroun. À cet effet, les activités de l'association dénommée « Un diplômé, un champ » créée en août dernier ont été présentées comme pionnières. Alain-Georges Lietbou, fondateur de la dite association.
Le principe est simple. Les jeunes viennent, on leur parle du projet. Lorsqu'ils sont intéressés, ils viennent, ils vont au champ. Mais on va au champ deux fois par semaine. Lorsqu'on va aller vendre les produits, les jeunes qui ont participé au projet, au lieu de leur donner de l'argent pour leur main d'œuvre, on va leur donner une forme de bourse. Par exemple, si un jeune veut faire par exemple du piment, on lui donne la semence, on lui donne également la terre, on la cadre.
À ce jour, l'association Un diplômé, un champ possède un champ communautaire de légumes de 3 500 m² dans la périphérie de Yaoundé. Le premier forum sur la migration au Cameroun a été initié par l'ONG de droit camerounais Solutions aux migrations clandestines qui sensibilise sur la question depuis une dizaine d'années. Yves Tiala, son président, pense avoir trouvé la bonne formule pour parler de la migration au Cameroun.
La migration était souvent mal perçue par les cibles qui pensaient qu'on venait à tout prix pour les arrêter. Et la raison était qu'on n'avait pas le temps d'exposer parce que sur les opportunités. On a imaginé cette plateforme où on pourra avoir tout le monde sur place au même endroit, et notamment les organisations pour pouvoir s'exprimer pour parler de migration légale en Europe, en Tunisie, etc.
Plus de 3400 Camerounais pris dans l'engrenage des passeurs ou de la traite des êtres humains en Libye ou ailleurs ont été secourus et ramenés au pays grâce à l'Organisation internationale des migrations. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, un concours pour des jeunes porteurs de projets sur comment vendre leurs idées s'est tenu le 24 octobre dernier à Lomé, une initiative de GAT, Global Alumni Association of Togo. La compétition opposait donc boursiers des Yali en provenance d'Accra, Lagos et Dakar. Ce concours qui en est à sa deuxième édition, mise sur l'originalité et l'impact social. C'est un reportage à Lomé de notre correspondante Kailoson.
Sur les 6 projets sélectionnés pour la finale du Yali Pitch Competition, 3 ont été primés. Manibé Zouenyaro, qui a remporté le premier prix, a défendu son projet de ferme agroécologique.
En 2016, j'ai lu un article de l'OMS dans lequel il y avait plus de 3 millions de personnes dans le monde qui ont perdu la vie pour avoir mangé des aliments produits avec des pesticides chimiques. J'étais scandalisé parce que c'était la moitié de la population de notre pays, le Togo. Nous avons créé une ferme école agroécologique qui nous permet d'offrir des fruits et légumes naturels à nos concitoyens. L'aspect le plus important dans tout ce que nous faisons, c'est l'humain, c'est la jeunesse togolaise que nous voulons encourager dans l'entrepreneuriat agricole et surtout agroécologique.
La présidente du jury, Essie Farida Geraldo, revient sur le choix du jury.
Le premier prix, nous l'avons choisi à cause de l'originalité et surtout de l'impact sur tous les plans. L'impact social, l'impact sur la santé et tout, et la clarté du projet. Parce que la plupart des candidats ont des idées qui sont intéressantes, mais n'ont pas pu montrer vraiment la richesse et l'impact de ces projets-là.
Les projets primés lors de ce pitch ont un dénominateur commun, l'impact social. Boutamekwa Adakpo est le promoteur du projet Anti-Volmoto Défense. Son objectif, contribuer à la sécurité des personnes et des biens, notamment les motos.
Nous sommes partis d'un constat, beaucoup de motos sont volées et moi-même j'ai été victime. Donc nous avons pensé mettre en place Anti-Vol Moto Défense, qui est un dispositif qui permet de pouvoir sécuriser les motos contre le vol, que ce soit en stationnement ou bien en situation de braquage. Une fois que le système est installé sur votre moto, ça permet au moteur de pouvoir se bloquer et en même temps déclencher une alarme.
Le jury a dû faire des recommandations aux porteurs de projets afin de les rendre plus compétitifs. Silvio Combe, membre du jury, s'adressant aux gagnants du troisième prix.
Ce serait bien d'intégrer un système de géolocalisation à votre système. Parce que si le voleur le prend et que ça se bloque, s'il n'y a pas de géolocalisation, il peut coincer l'engin quelque part et après revenir la nuit et partir avec. Donc vous n'aurez vraiment pas résolu un problème. Permettre à ce que même là où l'engin est bloqué, ça soit signalé directement au poste de police le plus proche.
Le premier prix est de $800, le second $650 et le troisième prix $500. Kailson Lomé, VOA Afrique.
Le nord de San Francisco et tout l'État de Californie ont été placés dimanche en état d'urgence par son gouverneur. Quelques 180 000 personnes ont été sommées d'évacuer à cause de la progression de l'incendie Kincaid Fire. Selon l'agence des pompiers, le sinistre qui a démarré mercredi soir a déjà brûlé plus de 12 000 hectares et n'était contenu qu'à 10 % hier soir. Les précisions de Irénée Hermanoumbo.
C'est la plus importante évacuation dans l'histoire du comté de Sonoma qui englobe toute la zone d'évacuation, a déclaré le bureau du shérif. Au moins deux hôpitaux, Kaiser Permanente Hospital et Shooter Santa Rosa Regional Hospital, ont évacué leurs patients durant le week-end vers d'autres établissements. Les précisions d'un sapeur-pompier dépêché sur le terrain.
C'est un incendie auquel nous faisons fréquemment face ici en Californie. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses ressources ont été déployées dans le quartier. Ils apprêtent les structures, les trient et les rendent défendables. Donc, si le feu arrive dans cette zone, ils peuvent prendre position et éventuellement empêcher le feu de détruire des maisons.
À entendre les descriptions de Georges Grijalva, un résident de Winchester, le spectacle est alarmant.
Tôt dans la matinée, j'ai voulu savoir d'où venait l'incendie. Et je l'ai aperçu, vous pouviez voir cette grande fumée sous la forme d'une grosse balle dans le ciel là-bas. Et j'ai dit, oh, je dois rentrer à la maison, car il me faut environ 10 minutes pour aller chez moi. Et autour d'une demi-heure, ou même moins, il était déjà là.
Des centaines de policiers ont été déployés pour éviter le pillage des propriétés abandonnées. Le bureau du shérif avait annoncé l'ordre d'évacuer plusieurs zones situées immédiatement au nord de Santa Rosa, ville qui compte elle-même près de 180 000 habitants.
Je voulais partout. J'essayais d'en éteindre quelques-unes ici dans ma cour. Je tentais de m'assurer que les avant-toits soient mouillés parce que c'est par là qu'elles entrent. Puis, en sortant, j'ai vu que mon ponton était en feu.
Le gouverneur de la Californie a décrété l'état d'urgence en raison des effets des vents dans la région de l'incendie. Selon lui, plus de 3000 personnes combattent cet incendie. Objectif, s'assurer que l'évacuation se passe bien et que les gens la prennent au sérieux. En 2018, un autre incendie avait fait 86 morts dans le nord de la Californie, selon les autorités.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Astagnou. À la console, Thomas Blondet. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
les intérêts.